Chaud devant, un Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
et comme plat principal,
le Messie inattendu.
Salut Marc.
Salut Samuel. Tu sais, Samuel, je trouve qu'on a parlé de beaucoup de choses depuis le début de nos émissions. On a abordé de nombreux thèmes. Et maintenant, j'ai encore une question importante.
Je t'écoute.
Bah, Jésus, c'est le Messie ou pas?
Tu veux savoir si Jésus est le Messie?
Bah oui, est-ce que Jésus était le Messie?
Eh bien, pour te répondre, d'abord, il faut que tu me dises, qu'est-ce que ça veut dire le Messie?
Le Messie? Eh bien, c'est très simple, c'est un sauveur. C'est celui qui vient sauver le peuple.
T'en es sûr?
Ah oui, sûr et certain, puisqu'on dit que Jésus est venu pour nous sauver.
Donc, parce qu'on dit que Jésus est venu nous sauver, tu penses qu'il est le Messie?
Oui, tout à fait.
Et tu sais que Messie, ça vient d'un mot hébreu?
Oui, ça vient du mot Meshiach.
Et Meshiach, ça veut dire sauveur?
Je sais pas.
Tu ne sais pas? Eh bien, si on allait examiner la question, t'es prêt? Prends ta Bible.
Ouais, d'accord, je suis prêt.
Il est une période de la vie du peuple d'Israël qui est racontée dans le livre des Juges. À cette époque, Israël était gouverné par des juges, et ces juges n'étaient pas très justes. Ils commettaient de nombreuses atrocités et injustices. Alors, le peuple est allé voir le prophète Samuel pour lui demander un roi.
Livre de Samuel. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis pour nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel.
À ce moment-là, Samuel ne veut pas accéder à la demande du peuple, car il sait déjà que le peuple est infidèle à Dieu. Et il sait qu'avoir un roi ou ne pas en avoir ne changera pas grand-chose. Au contraire, le roi va certainement abuser du peuple. Cependant,
l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix et établis un roi sur eux. »
Alors, la Bible raconte l'histoire de Saül et comment il a rencontré le prophète Samuel.
Un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. »
Saül arrive vers le prophète Samuel sans se douter qu'il sera choisi par Dieu. En fait, il cherche des ânes qu'il a perdus. Et le lendemain,
quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?»
Et voilà comment Saül devient le Messie.
Attends Samuel, je comprends pas trop le rapport. De quoi tu parles?
Eh bien, Saül a bien été choisi par Dieu pour être roi.
Ouais, mais enfin, de là à dire qu'il est le Messie?
Eh bien voilà, en hébreu, le Messie veut dire le oint, celui qui a reçu l'onction d'huile, celui à qui on a versé de l'huile sur la tête.
Ah bon? Donc celui qui reçoit de l'huile sur la tête, on l'appelle le Messie?
Eh oui, c'est comme ça qu'on désignait les hommes qui avaient des fonctions importantes, les prophètes, les rois, les prêtres.
Donc Saül, c'est le Messie?
Oui, et tous les rois après lui qui seront choisis par Dieu. Et parmi ceux-là, il y en a un particulièrement connu.
Non, pas encore le roi David.
Si, lis donc. Nous sommes à une période où Saül a désobéi à Dieu et il a été rejeté. Alors le prophète Samuel va choisir un autre roi. Pour cela, il va voir un homme du nom d'Isaïe et lui annonce que son fils sera roi. Mais Isaïe a 7 fils. Alors il fait passer devant Samuel ses fils un par un, mais aucun ne correspond à celui que Dieu a choisi. Alors
Samuel dit à Isaïe, « Ce sont là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama.
Et voilà que David devient donc le roi choisi par Dieu. Et plus que Saül, David deviendra l'exemple du bon roi. Au cours des années, David sera choisi comme une figure emblématique du bon roi, celui qui rassemble son peuple, qui est juste, qui est fidèle à Dieu, même si tout ne va pas sans mal comme on l'a déjà vu la dernière fois.
Bon, d'accord Samuel. Je comprends bien maintenant. On dit que les Juifs attendaient le Messie à l'époque de Jésus. Mais alors, qui attendait-il? Un autre roi? Moi, je croyais que c'était Hérode, le roi.
Le Messie que les Juifs attendent à l'époque de Jésus, c'est effectivement un roi. Un roi comme David, qui puisse rétablir l'unité du peuple et sa souveraineté. Un roi qui agirait comme un prophète et un homme puissant. Rappelle-toi qu'à l'époque de Jésus, le peuple est sous occupation romaine. Oui, Hérode est le roi, mais son autorité n'est pas reconnue. Il est considéré comme un usurpateur. Les Juifs attendaient un Messie, un homme choisi de Dieu qui puisse les sauver. Cette attente était extrêmement forte à l'époque de Jésus. Plus le peuple souffrait, plus il espérait un sauveur. C'est là que les prophéties entrent en jeu.
Prophéties? Quelles prophéties?
Pour bien comprendre cette attente des Juifs par rapport au Messie, il faut lire les prophéties qui s'y rattachent. Par exemple, que dit Jérémie au chapitre 23?
Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un germe juste. Il régnera avec sagesse et il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et Israël vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont il l'appellera. L'Éternel est notre justice.
Déjà un point important, le Messie devait être de la descendance de David. Autre point, le Messie devait venir de Bethléem, comme l'annonce le prophète Michée.
Or c'est de toi, Bethléem Ephrata, si peu importante parmi les groupes de Juda, c'est de toi que je veux que sorte celui qui est destiné à dominer sur Israël et dont l'origine remonte au temps lointain, aux jours antiques.
Autre prophétie, celle qui annonce un signe miraculeux, une naissance miraculeuse dans Isaïe au chapitre 7.
Le Seigneur vous donne de lui-même un signe. Voici, la jeune femme est devenue enceinte. Elle va mettre au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel. C'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est accordé. La souveraineté repose sur son épaule et on l'a appelé conseiller merveilleux, héros divin, père de la conquête, prince de la paix.
Autre image importante, le sauveur que les Juifs attendent sera un prophète de la même trempe que Moïse. On peut lire cela dans le livre du Deutéronome.
L'Éternel ton Dieu te suscitera au milieu de toi, L'Éternel ton Dieu te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte.
Une autre prophétie.
Une autre prophétie. Mais attends Samuel, il y a combien de prophéties comme ça qui annoncent le Messie?
Bon, il y en a au moins 33.
33?
Oui, c'est beaucoup, mais dis-toi bien que cette attente du Messie est primordiale pour le peuple juif. Encore aujourd'hui, les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie attendent toujours un autre Messie.
Bah oui, c'est étrange ça. Pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie?
Eh bien, c'est quelque part un mystère. Ils ont bien sûr certains arguments pour tenter de montrer que Jésus n'était pas le Messie.
Ah bon? Et quoi comme argument?
Eh bien, par exemple, le Messie devait instaurer un règne de paix.
Bah, Jésus donne-t-il pas la paix à ses apôtres à la résurrection, en leur disant « je vous donne ma paix »
Certes, mais pour le peuple d'Israël, il s'agissait tout de même d'une paix civile, c'est-à-dire rétablir le royaume d'Israël. Or, après Jésus, c'est plutôt la catastrophe, puisque le temple est détruit et les Juifs partent en exil, persécutés et dispersés à travers le monde. Cet exil qui a duré presque 1900 ans.
Tu veux dire qu'à l'époque de Jésus, la vision du Messie attendu était surtout celle d'un Messie politique, si on peut dire.
C'est ça. Pour les Juifs, la révélation divine est liée avec le destin de la nation. Donc si le Messie vient, ce n'est pas pour que le peuple se divise et reste sous domination étrangère.
Donc si je comprends bien, nous les chrétiens, nous croyons que Jésus est le Messie, mais qu'il n'est pas le Messie politique tel qu'on l'attendait.
Tout à fait, puisque le mystère ne va faire que s'épaissir. Jésus va être rejeté et il va mourir sur une croix, ce qui n'est pas très glorieux pour un Messie censé sauver le peuple.
Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, est-ce que les prophètes eux-mêmes ne sont pas souvent morts sous les coups du peuple lui-même?
Non seulement ça, mais les chrétiens citent de nombreuses prophéties qui se rapportent à ce Messie souffrant. Notamment ce fameux passage d'Isaïe 53.
Méprisé, repoussé des hommes, homme de douleur, couvert de maladie, il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tiendrons nul compte. Et pourtant, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait, alors que nous, nous le prenions pour un malheureux, atteint, frappé de Dieu, humilié. Et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri, pour nos iniquités qu'il a été écrasé. Le châtiment, gage de notre salut, pesait sur lui. Et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison.
Un autre passage d'Isaïe dit
« Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël.
à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. »
Et le psaume 118 nous dit
« La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. »
Un autre passage d'Isaïe
« J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. »
Je pourrais continuer comme ça encore longtemps. La vie et les actes de Jésus sont partout annoncés dans l'Ancienne Alliance. Mais le mieux est encore de prendre les évangiles. C'est la raison d'être des évangiles. Ce sont des récits de ceux qui ont rencontré Jésus et qui témoignent pour dire qui il était et comment il a accompli les Écritures. Prenons le passage des disciples d'Emmaüs. Il s'agit de deux disciples qui quittent Jérusalem après la Pâque et qui sont complètement désemparés après la mort de Jésus. Et voilà que Jésus ressuscité marche à leur côté et se met à leur parler. Relisons le texte.
Il leur dit
« De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout triste ?»
L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »
« Quoi ?» leur dit-il.
Et ils répondirent
« Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. »
Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié.
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées.
Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant.
Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu.
Alors Jésus leur dit « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Cette dernière phrase est très importante. Jésus lui-même va montrer aux disciples qu'il est le Messie des Écritures. N'oublie pas que le mot « Messie » en hébreu se traduit par « Christ » en grec. Et les évangiles nous sont parvenus en grec.
Donc Jésus est bien le Messie.
Plus que ça, les chrétiens prétendent qu'il est Dieu lui-même.
Là, faudrait peut-être pas pousser non plus. Que Jésus soit le Messie, pourquoi pas? Que Jésus soit celui qui nous sauve et qui meurt pour nos péchés passe encore, mais qu'il soit Dieu lui-même, on va pas quand même croire au Père Noël non plus.
C'était Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
une émission dans la dynamique du Festival de la Parole,
présentée par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine.
Le Père Noël vit-il au pôle Nord ou au Groenland ?